Avec vous donc Laura Dulieu.
Aller sur le terrain pour entendre les demandes des Français, des entreprises et des élus locaux. Jean Castex fixe la méthode de travail du gouvernement. Réuni ce matin en séminaire, on revient sur la première semaine d'exercice du Premier ministre en début de journal. Le nouveau coronavirus continue de circuler. L'OMS appelle à la vigilance devant l'explosion récente des contaminations dans le monde. La Belgique impose désormais le port du masque dans tous les lieux clos. Nous irons également à Singapour qui vient d'élire un nouveau parlement avec une percée de l'opposition. Et à Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine, qui commémore aujourd'hui les 25 ans du génocide de plus de 8000 musulmans bosniaques. Jean Castex veut que ses ministres aillent sur le terrain pour entendre les demandes des Français, des entreprises et des élus locaux. Déclaration sur Twitter du Premier ministre qui réunissait ce matin les membres de son gouvernement en séminaire. Un séminaire censé fixer une méthode de travail. En quelques jours, Jean Castex est donc passé de haut fonctionnaire de l'État, inconnu du grand public, à Premier ministre. Pierre Neveu, en l'espace d'une semaine, Jean Castex a déjà imprimé son style.
Visite d'un commissariat, d'une entreprise, déplacement au tribunal judiciaire de Bobigny, à Dijon, dans un quartier théâtre de violence, réunion avec les partenaires sociaux, avant un déplacement en Guyane ce dimanche. L'ancien maire de Prades a décidé de s'afficher dans l'action cette semaine, sur le terrain, pour rompre avec son image de grand commis de l'État.
Devenu Premier ministre, et n'ayant pas l'habitude de porter des appréciations à l'emporte-pièce, c'est bien le moins, je me suis dit, il faut aller voir, il faut aller sur place, il faut aller à la rencontre des acteurs.
L'homme qui a pris les commandes de Matignon aime à parler de la France qu'il connaît et surtout des territoires. C'est son ADN, son credo.
J'ai la conviction que la mise en œuvre des politiques publiques que le gouvernement conduira passera, pour être efficace, par les territoires.
Cette semaine, Jean Castex a découvert le rituel des questions au gouvernement, un exercice d'éloquence particulier dans l'hémicycle, si sa communication a suscité pas mal de critiques. En quelques mots, il a su faire preuve d'autorité en décidant de remettre en chantier la réforme des retraites.
Refuser de parler des retraites serait irresponsable. Irresponsable.
Changement d'homme, changement de style. Jean Castex annonce dès cette semaine une enveloppe supplémentaire pour les rémunérations des soignants, comme il promet une prochaine augmentation du budget de la justice. Il est franc, cash, direct. C'est le constat que dresse le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Reste que le nouveau Premier ministre va devoir faire oublier le style Édouard Philippe, à la fois technocrate, direct, non dépourvu d'humour. Un style Jean Castex qui sera particulièrement analysé mercredi prochain à l'occasion de son discours de politique générale.
Pierre Neveu, et on apprend ce matin que les cabinets ministériels vont gonfler leurs effectifs. Des cabinets qui passeront à 15 personnes pour les ministres et ministres délégués contre 10 aujourd'hui. Les cabinets des secrétaires d'État, eux, passeront de 5 actuellement à 12 personnes. La Belgique rend le masque obligatoire à partir d'aujourd'hui et ce dans tous les lieux fermés. Des commerces aux lieux de culte en passant par les casinos ou les salles de spectacle. Une mesure pour tenter de faire baisser le nombre de contaminations au coronavirus qui stagne. À Bruxelles, Pierre Benazzi.
Moi, je le porte depuis le début, tout le temps même dehors. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. Moi, je trouve que justement, ils auraient dû le faire depuis le début. Il y aurait peut-être eu un peu moins de pandémie. Donc moi, je suis pour le port du masque.
Et on devrait même le porter partout, insiste Gina Gilbert, avant de continuer ses emplettes. Le masque obligatoire imposé par le gouvernement fédéral belge à d'ardents partisans ce samedi matin dans le quartier bruxellois du cimetière d'Ixelles. Avant même cette décision, le fleuriste Yves Manet conseillait déjà à ses clients de porter le masque.
C'est pas agréable du tout et c'est très très compliqué. Mais c'est obligatoire. Si on ne peut pas retomber dans une deuxième vague, on est obligé de passer par cette phase-là. Beaucoup de personnes sont tout à fait répulsives à ce genre de contraintes. Et donc, c'est bien de l'ordonner pour que les gens suivent au moins les règles.
Bernard, lui, affirme habiter Bruxelles depuis 79 ans, c'est-à-dire 79 ans. Et il trouve qu'on fait plus attention aux précautions sanitaires ici qu'à la campagne.
J'ai acheté une maison dans un village. Là, je mets un masque pour aller au magasin et tout le monde rigole de ma poire.
Donc, vous êtes plutôt content, alors, vous, du masque?
Ouais, ça me dérange pas. De temps en temps, c'est bien quand je me rase pas toujours.
Pour les commerces ou les musées, la décision passe donc plutôt bien, mais l'obligation de porter un masque pendant tout un spectacle ou une séance de cinéma risque d'être nettement moins populaire.
Pierre Bénazé. Et en France, les prix de gel hydroalcoolique et des masques restent finalement encadrés. Cet encadrement est prolongé jusqu'en 2021. Il devrait prendre fin hier avec la fin de l'état d'urgence sanitaire. Les masques chirurgicaux ne peuvent donc toujours pas être vendus à plus de 95 centimes l'unité ou 80 centimes en gros. Et même chose pour les solutions hydroalcooliques dont les prix restent plafonnés. Et ailleurs, sur le front de la pandémie, des experts de l'Organisation mondiale de la santé sont attendus aujourd'hui en Chine pour une mission exploratoire avant le démarrage de l'enquête de l'OMS sur l'origine de l'apparition du virus. Le nouveau coronavirus qui a déjà fait plus de 556 000 morts, il continue de progresser en particulier aux États-Unis et au Brésil qui dépasse depuis hier les 70 000 morts. La Californie va libérer jusqu'à 8 000 prisonniers supplémentaires pour réduire la propagation du virus dans ses prisons surpeuplées. Et toujours à cause de la pandémie, c'est au tour de Emirates d'annoncer de grosses coupes dans ses effectifs. La compagnie aérienne les a déjà réduits de 10%, mais son PDG annonce que les suppressions d'emplois pourraient atteindre 15%. Ça représente 9 000 emplois. Singapour a un nouveau parlement après des élections hier. Le vote à Singapour est obligatoire et cette fois-ci, c'est l'opposition qui fait une percée sans précédent. Elle siégera au parlement sans avoir la majorité, mais pourra malgré tout influencer le parti au pouvoir depuis l'indépendance. Les explications de notre correspondante Gabrielle Maréchaux.
Partout ailleurs, ce score ne paraîtrait pas impressionnant, mais à Singapour, il est historique et Rotting Rue, député tout juste élu du Workers' Party, en est ému.
Merci du fond du cœur pour la confiance et l'espoir que vous avez manifesté aujourd'hui. Nous travaillerons dur pour s'assurer que cette confiance n'est pas mal placée, car nous n'aurions pas pu en arriver là sans nos supporters qui travaillent sur le terrain depuis 10 ans.
Son colistier Jamuslim en devient même lyrique.
On espère vous avoir tous poussé à croire que le rêve d'une alternative future est aussi atteignable que le courage de saisir les opportunités qui viennent à vous.
Leur parti a remporté 10 des 93 sièges du Parlement, un score sans précédent dans le paysage de la cité-État où le découpage des circonscriptions, les campagnes express de 9 jours et la rigidité des conditions pour être candidat compliquent les ambitions de l'opposition. Depuis 1959 donc, le pire score du parti au pouvoir était de 93% et cet étonnant record a aujourd'hui été battu. Dans les circonscriptions où le Workers' Party était triomphant vendredi soir, David semblait avoir gagné contre Goliath et la nuit fut festive.
Gabriel Maréchaux. C'est la fin de l'aide transfrontalière de l'ONU en Syrie. L'autorisation des Nations Unies a expiré hier soir sans que le Conseil de sécurité n'ait pu se mettre d'accord pour prolonger cette aide humanitaire. Une aide qui était en place depuis 2014, vitale pour des millions de personnes. Cette autorisation permettait d'acheminer via deux points d'entrée au nord-ouest du pays de l'aide à la population et ce, sans l'aval de Damas. Malgré 5 scrutins cette semaine, aucune solution n'a été trouvée. La Chine et la Russie ont posé leur veto à 2 reprises. La Russie qui estime que cette aide transfrontalière est une violation de la souveraineté de son allié syrien. La tension monte au Mali avec un mort et 20 blessés hier lors d'une nouvelle manifestation à Bamako contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Des bâtiments publics ont aussi été attaqués. C'est la troisième manifestation en moins de 2 mois organisée par la coalition du mouvement du 5 juin qui conteste le président malien au pouvoir depuis 2013. Coalition formée par des chefs religieux, des hommes politiques ou de la société civile. C'est la pire tuerie perpétrée en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le 11 juillet 1995, il y a tout juste 25 ans, la ville de Srebrenica, à l'est de la Bosnie, tombait aux mains des forces serbes. Les jours suivants, 8350 bosniaques musulmans ont été méthodiquement liquidés en l'espace de quelques jours. Qualifié de génocide par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ce massacre, perpétré au nom d'une Bosnie éthiquement pure, a marqué un tournant dans la guerre entre bosniaques, serbes et croates pendant 3 ans. Guerre qui a fait plus de 100 000 morts et 2 200 000 réfugiés. 25 ans après, des commémorations sont aujourd'hui organisées à Srebrenica, où les plaies sont toujours béantes, Louise Baudet.
Il y a d'abord ceux qui, 25 ans après, cherchent toujours un corps à inhumer. Celui de leur fils, frère ou mari, abattu d'une balle dans la tête, puis enterré à la pelleteuse dans des fosses communes. Charniers rouverts ensuite au bulldozer pour déplacer les corps et occulter le massacre. 6880 dépouilles ont à ce jour été retrouvées. La plupart reposent dans le cimetière mémorial de Srebrenica, où 9 victimes nouvellement identifiées seront tout à l'heure inhumées. Des comptes morbides et pourtant essentiels pour les familles. Ces survivants qui, pour certains, se sont exilés en Suède ou aux États-Unis, quand d'autres sont restés dans une ville sinistrée où vivent aussi les Serbes, dont beaucoup nient le génocide, l'occultation principal obstacle à l'apaisement entre communautés. Et puis il y a la mauvaise conscience de ceux qui n'ont pas su protéger. La communauté internationale et ses casques bleus néerlandais repliés sur leurs bases voisines, submergés par l'afflux de civils espérant protection, abandonnés aux mains des milices serbes, anciens soldats marqués à jamais, pendant que l'État néerlandais condamné en 2014 a été partiellement blanchi l'an dernier.
Louise Baudet. Un mot de météo cet après-midi, les éclaircies gagnent la majeure partie du pays, une couche nuageuse s'installe sur les Pyrénées et un risque d'averse persiste sur les Alpes et l'extrême sud-est. Les températures, il fait de 18 à 26 degrés sur le nord de la France, de 26 à 31 au sud, voire jusqu'à 35 degrés dans le Var. Ce journal a été préparé par Nicolas Paumet avec Audrey Guélil à la technique.